Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quéminot.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. Évidemment, vous pouvez retrouver les deux premières heures en podcast. On s'est demandé si vous étiez emballé par cette Coupe du Monde. Est-ce que vous ne trouvez pas que Pogacar en fait trop, lui qui part maintenant dans des longs raids, même sur les Tours de Suisse. Et puis on a parlé du top 14. Est-ce que Toulouse et Dupont, est-ce que Doute et Deux étaient une erreur? Bah oui, en tout cas, ils ont gagné avec plus de 70 points hier face au Racing 92. Montpellier, Stade Français ce soir, c'est la deuxième affiche demi-finale du top 14 à 21h. 0-5 dans un instant, les GG sur le buzzer. Est-ce qu'on peut traiter une légende comme un joueur ordinaire? Référence à Cristiano Ronaldo, par exemple. Tiens, oui ou non, Sarah Pitkowski?
Ça dépend de quelle légende tu parles.
Ah oui, mais Christophe Cessieux, par exemple, on peut le traiter comme un chroniqueur ordinaire?
Non.
Mais pourtant, je suis maltraité dans cette
histoire. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est typique des légendes.
Oui. Hein, tu vois, je suis jamais
traité à ma juste valeur.
Susceptibilité exacerbée.
Le mal aimé.
Suis-le.
Calimero, ça dépend. Voilà.
Calimero, tu l'as bien.
Calimero, ça c'est typique de la légende.
Tu l'as bien.
Allez, les amis, en fin d'émission, participez au jeu du sport. Bah tiens, alors là, c'est typiquement le Calimero, Christophe, quand même, sur les jeux du sport. Surtout quand Bennett est là.
Ah non, c'est le mauvais joueur aujourd'hui.
Je joue pas, il y a Bennett, je joue pas.
Ouais, tiens, vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai reçu un message de Julien T sur WhatsApp qui m'a dit on peut comparer Pogacar à Benedetto au quiz des GG. Oula. C'est-à-dire, pourquoi retenir les coups quand on peut tout de suite écraser la concurrence?
Ah ouais, c'est ça, tu veux toujours écraser.
C'est vrai. Et tu vois, tu vois, t'attaques des premières questions, tu nous mets à la ramasse.
Tu fais un 3 contre 1 aujourd'hui ou pas?
Et quand tu mènes 5-0, t'actives la question impossible.
C'est sûr.
On peut faire un 3 contre 1 ou pas?
On l'a fait la semaine dernière.
Il a gagné.
Aujourd'hui, gagnez une enceinte portable Mio X de Lexon pour emporter votre enceinte portable. Le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, Julien Benedetto, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les champions arrivent à performer dans des situations délicates de la vie privée. Et il y en a eu plusieurs cette semaine. Tadej Pogacar, on l'a dit tout à l'heure, Jérôme, continue le Tour de Suisse alors qu'il a vu sa compagne qui est coureuse cycliste, comme lui.
Elle était Urszula Zegart.
Exactement, victime d'une chute
incroyable,
affreuse, au dernier kilomètre de son étape. Elle s'est fracturée la mâchoire, apparemment.
Tombée la face.
Ouais, là pour le coup, c'était vraiment assez terrible. Pogacar a continué sa course Coquillard, alors qu'il le savait en course d'ailleurs. Le clan Lionel Messi, ça c'est du football, a communiqué pour expliquer que le papa de Léo rencontrait des problèmes de santé actuellement et se trouvait sur surveillance médicale. C'est la raison pour laquelle l'Argentin était ému, souvenez-vous, au moment de son premier but contre l'Algérie cette semaine. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça dans le sport de haut niveau, et en fait ça va forcément résonner aussi chez vous, auditeurs et auditrices, dans la vie de tous les jours. Comment on gère les soucis de la vie privée pendant une compétition? Est-ce qu'on arrive à appuyer sur le bouton off quand on est dans une compétition, où on reste quand même parfois aussi submergé par les petits problèmes du quotidien? On parle pas forcément des choses un peu dramatiques, hein, comme c'est le cas actuellement. Jérôme?
Moi, je pense que tu peux pas faire abstraction de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe autour de toi. Ça va dépendre aussi beaucoup de comment tu es et comment tu... Quel est ton caractère? Me concernant, il m'était impossible de performer si j'avais un souci à la maison, et j'ai toujours fait passer les choses qui se passaient. Alors grave, évidemment, il y a des choses qui faut trier ce qui se passe. Mais moi, pour mon cas, j'ai deux exemples à te donner. J'ai fait un tour du Limousin où mon papa devait se faire opérer du cœur, opération prévue, mais à risque, évidemment. Il était hors de question que ça se passe mal si j'étais sur le vélo, donc j'avais décidé de rentrer à la maison s'il y avait le moindre souci. Lors de la naissance de mes enfants, pareil, j'ai une de mes filles, Lou, qui est née au mois de mars, c'était pendant Paris-Nice, la priorité était d'être là, parce que on parle d'une naissance et on a eu il y a un débat en ce moment sur Doku.
Mais Jérémy Doku, si, le maître.
Oui, mais on pense toujours à la naissance de l'enfant. Oui, mais si ça se passe mal.
Bien sûr.
Comment tu expliques que toi t'es pas là? C'est pas explicable. Ça passe avant. Et il y a d'autres. J'ai fait un tour d'Italie. Mon dernier tour d'Italie avec l'équipe Yam Cycling, c'était pas la grosse ambiance à la maison. Au bout de 10-15 jours, ça commençait un peu à aller mieux. J'ai arrêté le tour d'Italie. Je suis rentré à la maison pour tenter de sauver mon couple. Bon, ça n'a pas marché. Mais je l'ai fait. Parce que la vie, de toute façon, c'est d'abord la vie de famille. Et en plus, j'étais nul.
Mais ce qui était.
J'étais nul parce que t'as la tête ailleurs.
Mais là, tu le dis. Mais quand on est en compétition, quand on est en carrière, c'est les choses qu'on dit pas, ça.
Au mais micro. Non, tu peux pas le dire.
C'est-à-dire que
on sait pas ce qui se passe.
Mais c'est d'ordre de l'intime. Mais c'est d'ordre de l'intime. Mais sauf que vous êtes en plus sujet aux critiques médiatiques et populaires sur ah ben il a quitté la course, ah ben il a pas été bon. Alors que finalement, on sait pas du tout ce qui se passe là. Messi, d'une certaine façon, a été contraint de dire.
De temps en temps, on peut lire, on peut voir pour raison personnelle. Alors qu'il y a certaines années, ça n'existait pas.
On n'utilisait pas cet argument-là, en fait.
Exactement.
Ça aurait été pris pour une excuse.
Faiblesse. Ouais, c'est la faiblesse. Donc, ça dépend aussi de la nature de chacun. Moi, dans le tennis, on parle de choses, comment dire, sans parler de choses très importantes, comme la naissance d'un enfant, ou très graves, comme des ennuis de santé très importants des proches, où là, évidemment, ça impacte. Il y a aussi tout le quotidien, les petits tracas du quotidien. Ça dépend après si tu es en couple ou pas en couple, si dans ton couple, tu as des enfants, pas des enfants, et après, en fonction de la nature de chacun, comment tu gères ça. Moi, j'ai des exemples autour de moi dans le milieu du tennis. Les mecs qui partent 4-5 semaines en tournoi, ils ont beau avoir femme et enfant, les tracas du quotidien, ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas eux de gérer.
Ils arrivent à se dissocier complètement.
Ouais, c'est pour ça
que c'est être le joueur et l'être humain, la vie de tous les jours, on le dissocie.
Là, je suis en tournoi et tu ne me casses pas les pieds. Enfin, tu
ouais,
gères.
Ouais, je bosse, quoi.
Voilà,
ouais,
tu gères. Bon, moi, je n'étais pas comme ça. Et après, tu as des types de compagnes qui acceptent ou qui n'acceptent pas, et puis il y en a qui travaillent, d'autres qui arrêtent de travailler, et qui suivent, et donc du coup le schéma il est différent. Moi, mon épouse, elle a jamais été, enfin elle connaissait rien au tennis, elle travaille dans un autre domaine. Bon c'était impossible pour avoir du lien avec elle que je m'intéresse pas à ce qu'elle fait, qu'elle ne s'intéresse pas un minimum à ce que je fais aussi, évidemment. Et donc, du coup, c'était parfois très dur parce qu'on était dans des milieux qui étaient différents. Et donc, parfois, elle vivait des choses de manière au niveau privé et professionnel, et moi aussi de mon côté. Et quand on s'appelait le soir et qu'on essayait d'être là l'un pour l'autre, il y avait parfois une distance.
Mais
bien sûr, qui se crée automatiquement. Quand tu pars,
vous êtes dans deux mondes qui ne se rencontrent pas, en fait.
Exactement. Mmh. Et en fait, tout le monde me dit, ça te manque pas le circuit? Je dis non. Il y a des tournois qui me manquent. Mais aujourd'hui, le circuit, et Sarah est bien placée pour le savoir parce que son mari est de nouveau entraîneur à temps plein avec Quentin Unlis et ça marche très très bien, mais parce que ça demande des sacrifices, enfin des choix de vie où le circuit il est fait ou de sorte que pendant 4-5 semaines de suite tu n'es pas là et pendant plusieurs fois dans l'année
et c'est toi Gérard qui ça arrive au quotidien
pendant ces 4-5 semaines de suite, moi c'est très simple, le schéma c'est la première semaine elle passe vite et
c'est le milieu qui le milieu est absolument
le milieu est terrible. Le milieu est terrible parce que toi, tu enchaînes les tournois, tu enchaînes les rythmes de vie, entraînement, match, récup, resto, hôtel. Et toi, pendant ce temps-là, ta compagne, elle est...
Course, ramener les enfants de l'école,
travail,
leur faire
etc.
les devoirs, son
le
propre
travail,
faire le repassage, les courses.
Il y a des enfants, moi, j'avais pas encore mon fils pendant la mais et puis après, il y a la fin où... Tu sais que ça se passe bien parce que tu vas te retrouver et là tu rentres.
Tu dis j'ai encore mon tournoi de double.
Oui,
donc je vais rester
double,
un peu plus. Et le double.
Et moi j'avais le double, c'est
celui-là. Il est violent.
Et après quand tu rentres,
c'était à cause de toi Bennett parce que il t'entraînait Olivier.
Et le double. Mais quand tu rentres et t'as 8-10 jours avant de repartir.
Mais les 4 premiers jours, tu te réadaptes à la vie.
Merci,
loupé.
Merci, Jean. Mais les 3 premiers jours, mais c'est pas.
C'est souvent la faute, c'est souvent l'erreur. On est dans un autre débat, mais le grand nombre de couples qui se séparent après une carrière, c'est souvent dû à ça.
Et oui, parce
qu'on pense le fait que t'as pas
couples,
été là. Et
les couples de militaires, c'est encore pire parce que les trucs sont beaucoup plus longs. Les pêcheurs, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est un paquet de.
C'est exactement les mêmes histoires métier, en fait, ouais. parce que c'est des des vies un peu nomades.
Vous aussi, hein,
vous, les journalistes, vous partez.
Moi, j'ai eu
et les transporteurs,
une expérience comme ça qui a été dramatique dans ma vie. Je pars à la Coupe du Monde de foot en 2002. Mon papa était très malade. Je savais pas s'il allait tenir le long du reportage. Je suis parti. J'ai suivi quelques matchs et puis ma belle-mère m'a rappelé en disant bon, il faut vite que tu rentres. Donc tu prends l'avion à toute vitesse et c'est quand même à l'autre bout du monde, t'arrives, mon père m'a attendu, il est mort dans la nuit, mais il m'a vu. Mais t'es angoissé au quotidien, mais tu te dis, qu'il faut que je rentre maintenant, est-ce qu'il faut pas que je rentre maintenant, si je le vois plus, je vais manger. Voilà. Donc ça te bouffe, c'est vraiment des moments terribles.
En fait, il s'agit dans la vie de tous les jours de savoir comment on arrive à gérer travail et vie privée, en fait.
Oui,
tout simplement. La place qu'on arrive à mettre là-dedans, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, comment on gère la vie privée pendant une compétition.
Sauf que le sportif, il l'est pas de 9h à 18h. Et quand tu rentres à 18h, c'est fini. Exactement. Quand tu es sportif de haut niveau, tu l'es 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours.
Ah ben oui, mais
quand
là, par exemple, les camionneurs, les ambulanciers.
Oui, mais une grande partie, quand tu es du monde professionnel, tu peux couper. Tu rentres chez toi et ton boulot, tu le laisses de côté. Là, c'est pas le cas.
C'est compliqué pour toi, Sarah ?
Ben, c'est compliqué parce qu'il y a en plus une différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que forcément, moi, quand je voyageais, c'était donc il y a une vingtaine d'années, ton conjoint, il t'attend pas à la maison. Exactement. Il vit sa vie. Donc en plus l'équilibre homme-femme et donc les angoisses, elles sont différentes. Si tu vis avec quelqu'un qui n'est pas dans l'univers du sport, c'est encore plus angoissant parce que lui il a une vie. Moi j'avais 18-19 ans, donc il a une vie d'adolescent dans ces cas-là. Et comment toi t'es à l'autre bout du monde où les téléphones portables n'existaient pas, où t'avais pas ton ordinateur,
tu sais
pas
ce qu'il fait.
Exactement. C'est très intéressant.
Le déséquilibre.
Moi je l'ai toujours pris ça comme exemple pour l'égalité du prize-money chez les filles. Combien,
moi, je ne pouvais pas voyager.
Combien, Sarah, combien de joueuses, et encore plus vrai à ton époque, avaient un compagnon, homme, qui n'était pas du milieu du tennis, qui n'était pas son entraîneur, qui était
rare parce qu'en fait tu peux pas avoir, enfin je veux dire, tu c'est à l'autre bout du monde, t'appelles, le décalage horaire il est pas chez toi, tu peux pas construire. Et émotionnellement on sait que nous les femmes à un moment l'émotion elle peut prendre le dessus au point que tu peux plus fonctionner. Donc
toi il y a des matchs où t'as été moins performante parce qu'il y a des choses de la vie privée qui te perturbent.
Et encore une fois, mes compagnons étaient des joueurs de tennis en plus de ça. Alors moi je vais vous raconter une autre histoire, moi c'est que donc j'avais un entraîneur qui n'était pas mon conjoint, il n'a rien trouvé de mieux de sortir avec une autre joueuse d'une autre nationalité et on faisait les tournois ensemble.
Ah ouais, bah là,
ça
là,
me rendait hystérique.
Ah mais là, tout se mélange, la vie privée, sportive.
Parce qu'en fait, forcément, il y a la complicité, il est que pour toi, et puis tu te dis qu'il est avec une autre joueuse que tu pourrais jouer dans un des tournois, et là tu dis il est pour qui, il donne des conseils à qui. Donc en fait l'émotionnel il est ultra important, et ton équilibre fait que tu es performant ou moins performant. Et aujourd'hui, comme le sport de haut niveau, tu gagnes plus d'argent, en fait tu arrives à construire un équilibre émotionnel plus fort qu'à une époque où tu étais tout seul.
Est-ce qu'on le sous-estime, ça, vous trouvez, dans le traitement général? Par exemple, là, vous avez vu, on a parlé de Messi, ce qui se passe avec son papa, qui est malade, on a parlé de Tadej Pogacar.
Oui, mais ça a toujours existé.
Non, mais est-ce qu'on ne le prend pas suffisamment en compte sur l'impact que ça peut avoir sur la performance des athlètes?
On utilise le terme burn-out. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. On ne sait pas, est-ce que c'est le sportif qui ne se sent pas bien ou est-ce qu'il n'a plus d'équilibre familial?
Il traverse un moment difficile.
Exactement. Et on ça sur le compte du burn-out.
Regardez, ça va se passer avec Pogba. C'est
tout
plus complexe.
Tout va dépendre aussi au moment où ça se passe dans ta carrière.
Oui.
Aujourd'hui, un Tadej Pogacar a été prendre des nouvelles d'Urska dès la ligne d'arrivée franchie.
Elle est là, en plus, ils sont sur le même tour.
Elle est là, elle est blessée, mais pas gravement. Si elle est blessée gravement, Poggy,
il arrête.
Bah, c'est sûr.
Ouais.
Tant pis pour la prépa, tant pis pour la course. Oui. Il arrête. Ça dépend toujours de comment
ça
peut se passer. Moi, j'ai vécu des drames dans ma carrière. Ça dépend aussi comment réagit l'extérieur. Moi, j'ai perdu quelqu'un sur le Tour de France.
Ouais, voilà. Bon, on va passer là, évidemment. Non, mais c'est aussi, et je sais que ça peut sembler, peut-être qu'on peut sembler parfois qu'on s'expose un petit peu, mais c'est important d'en parler. Parce que justement, dans le vestiaire, c'est aussi l'opportunité de mettre un peu sur le devant de la scène, comme ça, mettre devant vous les sujets desquels on ne parle pas et qui ont un vrai impact parfois sur les performances sportives et aussi sur les êtres humains que vous êtes sportifs et sportifs de haut niveau. Et parfois, on a tendance à l'oublier et à vous déshumaniser un petit peu bien parce sûr. Qu'on vous voit comme des super-héros. Ce qui n'est pas le cas. Non, vous êtes des personnes comme.
C'est un peu notre faute à la base. Oui, parfois, on en joue. Hein.
Ouais. On prend l'exemple de Doku, là.
Jérémy Doku, donc le Belge. Il va être papa.
Il se pose la question. Normalement, il va rentrer. Il y a une petite polémique. Il y a une journaliste qui dit mais c'est le rêve d'une vie d'une jouer une Coupe du Monde, etc. Mais oui, d'accord. Mais comme l'a dit Jérôme, déjà, si l'accouchement se passe pas bien et que lui, il est à Los Angeles avec son équipe de Belgique et qu'il y a sa compagne qui est aux urgences parce que l'accouchement s'est mal passé.
Ça peut arriver, hein.
Il va être comment, déjà, premièrement. Et souhaitons l'autre cas où ça se passe super bien et qu'il est présent. Il loupe un match et il va faire l'aller-retour, il va revenir, il va être un peu fatigué par le décalage. Mais il aurait vu son premier enfant pour la première. C'est son premier enfant qu'il va avoir. Il va assister à
et ça. Et ça, nous, on pense comme ça parce qu'on est fait pareil.
Ce qu'il va gagner
Il y a des. Oui, Doku, je pense qu'il a ce sentiment-là.
Voilà, c'est
il y a les trois quarts des joueurs. On va parler de légende tout à l'heure. Peut-être parmi certains,
et en plus le foot te permet de louper un match et de revenir à la différence de Van Aert par exemple qui avait été obligé de rentrer parce que sa femme a couché.
Oui, le Tour de France t'attend
pas. Voilà,
tu peux pas revenir et reprendre
juste
la course,
une histoire récente. Marta Kostyuk à Roland Garros, après son premier tour, elle arrive en conférence de presse et elle montre la photo de chez elle où une bombe est tombée
à 100 mètres
de chez elle,
la joueuse ukrainienne, sa famille en plein conflit.
Donc en fait, ça aussi, ce sont des choses qui sont à vivre et pour autant elle a continué. Elle dit: j'ai pris des nouvelles, je savais que ma mère et ma sœur étaient en sécurité. Elle dit: je peux pas en faire abstraction, et elle continue.
Mais pensez aux joueurs iraniens par exemple à la Coupe du Monde alors que le pays est en guerre par exemple. Comme est-ce que tu peux y aller de manière totalement neutre?
Non, mais c'est ça, un impact qui menace.
En plus ils vivent une compétition.
Tu peux être menacé. Ouais. C'est quoi? C'est les iraniennes qui voulaient pas rentrer chez elles après
la Coupe du Monde en Australie là.
Où elle voulait pas. Et donc en fait le si on peut appeler ça un gouvernement qui met la pression sur les joueuses par rapport à leur famille, où t'es obligé de faire des choix en fait.
Mais alors, est-ce que, parce que c'est intéressant, parce que là maintenant en plus vous êtes après votre carrière, est-ce que avec un peu de recul on se dit j'aurais dû gérer ça différemment, ma carrière a pris trop de place, est-ce que j'aurais dû j'ai des regrets, j'aurais dû être plus présent?
Non,
parce que ça peut aussi être dans votre analyse.
Non, parce que je pense que tous les trois, on a un peu les mêmes, quand même, sensibilités humaines, le sens de la famille aussi, etc. Et je pense pas que, notre carrière a pris beaucoup de place, mais je pense qu'on a réussi à maintenir un équilibre entre notre vie professionnelle, la carrière, et la vie personnelle. Il y a d'autres joueurs de tennis, moi, que je vois, que je connais, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Mais c'est avec ma perception.
Bah oui, c'est parce que, ouais.
C'est un vrai sujet.
C'est-à-dire que, je trouve qu'il loupe des moments.
Moi, je trouve qu'il loupe des moments hyper importants et que, à la fin, je suis pas sûr que ça en vaille la peine.
Ouais, bon, chacun après est formé différemment, c'est ça.
Exactement.
Moi, j'ai pas ce regret-là, mais j'ai ce regard-là sur les gens les athlètes qui, on fait passer absolument la carrière avant tout le reste. C'est le cas de Lewis Hamilton, par exemple, qui a déclaré qu'il n'avait pas fait d'enfant et qu'il n'avait pas souhaité, parce qu'il c'est sa carrière d'abord.
Exactement. Il a fait un choix.
C'est un vrai choix. Ça veut dire que c'est un gars hyper sensible. C'est complètement différent que de vivre une vie de famille, mais qui passe après parce que ma carrière d'abord.
Exactement. Moi, un garçon, il dit.
Thomas Pesquet, astronaute.
Ouais. Il dit, mais moi, ma vie, elle est incompatible.
Avec une vie de famille, avec des enfants, il l'a dit.
Et ça, ok, je respecte totalement. Et je ne sais pas si un jour il aura des regrets, mais c'est pas pareil. Je suis d'accord. C'est-à-dire que quand.
Ah, c'est pas pareil du tout que de faire et de ne pas assumer.
De pas assumer, voilà.
Et Christophe en a parlé. Le meilleur cas dans mon sport, c'est Wout van Aert. Wout van Aert a été papa sur le Tour de France. Il avait déjà gagné deux ou trois étapes. Équipier de Vingegaard. Il a dit: moi, si ma femme accouche sur le tour, je tire. Mmh. Et je m'en vais.
Ben oui.
Mais parce qu'il n'y a pas plus important que ça, en fait.
Mais ça, c'est effectivement, c'est chacun. Et face à ses choix, effectivement, ça, entre l'équilibre, entre le travail.
Et puis, entre un sport collectif et un sport individuel, tu n'engages pas la même chose. Sport collectif, tu peux être remplacé. Et un sport individuel, tu prends ta décision.
Et puis, le Tour de France, c'est tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Non, mais c'est les arbitrages personnels, en fait. Ce sont les arbitrages personnels.
Thibaut Flamand, qui est en accord avec Galtier au début de l'année.
Poursuivre le protocole PMA. Et d'ailleurs, ils ont réussi.
Voilà.
Et c'est génial, en fait.
Et lui, il a mis ça de côté. Et ça va. Il a mis l'équipe de France de côté, mais en accord. Voilà.
Et certaines des décisions, surtout que l'on prend pendant notre carrière, moi, j'ai toujours pensé que ça pouvait nous rendre de toute façon plus forts. Moi, la première défi est née en 2006. Si j'assiste pas à la naissance, je vis très heureux avec ma fille, je la vois, je suis là. Je suis sûr que je suis plus fort derrière. Si je suis pas là, je fais un sacrifice. Je suis pas sûr d'être moins bon, mais je pense que ça m'a apporté quelque chose.
Et d'ailleurs, il y a des sportifs qui disent que quand ils deviennent papa, il y en a qui deviennent plus forts parce qu'en fait, tu mets plus.
T'engages la famille après, là.
Oui, t'engages. Mais peut-être que la pression, elle est un peu différente parce que tu sais que derrière, il n'y a pas que ça qui compte.
Bien sûr.
Et puis, au contraire, il y en a, et notamment, on en parlait en Formule 1, je me souviens que Jean-Luc Roy en parlait souvent, que quand les pilotes automobiles.
Quand tu es papa.
Là, il y a une prise de risque tellement importante que est-ce que, naturellement, tu ne mets pas un tout petit peu plus le frein que quand tu n'engages que toi et ta seule personne.
Ça dépend beaucoup du caractère parce qu'un
garçon.
D'une légende comme dans notre sport, Marc Cavendish, 5 enfants. Il n'a jamais freiné.
Avec rien.
Pour faire des enfants, il n'a pas freiné non plus, apparemment.
A priori non plus. Machine, le mec.
c'était ton mot de la fin, Bennett.
Ouais, je fermerai la porte des vestiaires là-dessus. Voilà. Machine.
Allez, on ferme la porte du vestiaire. Un vestiaire très important, selon moi. N'oubliez jamais que les sportifs de haut niveau sont des maris, des compagnes, des enfants,
des parents,
sont parfois célibataires. Ils vivent leur vie de tous les jours, des amis. Donc, dans votre analyse aussi, parfois des performances, là, par exemple, de Lionel Messi sur cette Coupe du Monde, gardons toujours en tête ce qu'il traverse avec son papa, parce que ça dit quelque chose. Vous êtes des êtres humains, les sportifs de haut niveau, comme tout le monde. Tiens, Cyril me dit sur WhatsApp, je vous écoute, quand on est entrepreneur, comme sportif de haut niveau, on ne décroche aussi jamais, évidemment. C'est pour ça aussi qu'on a fait ce vestiaire. On sait que ça résonne chez chacun d'entre vous. On revient dans un instant, les amis. Est-ce qu'on peut traiter une légende comme un joueur ordinaire, n'est-ce pas, Cristiano? Allez, on revient dans un instant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Dans un instant, les Jojo, on va jouer ensemble, évidemment, avec les GG. Vous pouvez gagner une enceinte Bluetooth Lexon X qui est flottante. Vous pouvez l'emmener dans la piscine cet été. Bah là, ça peut servir en plus, hein. Pour être dans la piscine sous 40 degrés, vous pouvez écouter les grandes gueules du sport en podcast, par exemple. C'est pas disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est super. Allez, les amis, sur le buzzer, tout de suite. Est-ce qu'on peut déboulonner la statue d'un roi?
RMC, les GG sur le buzzer.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a.
Celui qui me déçoit avec tout le talent qu'il a, c'est Ronaldo. C'est un talentueux en vrac.
Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts.
Vous me parlez du ballon d'or. Il y a le clown d'or quand il y a le festival du cirque. Et là, je pense qu'il va être imbattable.
Donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur filer les coups de pied pour de faux.
Bon dia.
I'm charismatic.
Oh non, vai partir pra bola, vai tirar pé direito.
Pour entendre ton rire qui les arde les murs. Qui sait surtout guérir les blessures.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regarder le soleil qui s'en va.
C'est Fred, hein, Fred Armel.
C'est pas le même que le matin. Hein.
Ah, c'est pas bonjour, c'est Fred. Ah, bah, hein. S'il te dit bonjour comme ça, tu.
À 6h le matin.
Bon, vous l'avez compris, c'est vrai que le cas de Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler depuis le début de la compétition. Il a été transparent lors du nul un partout face au Congo. Il a même été critiqué à la télévision américaine par Thierry Henry, hein, qui a été létal sur sa façon de jouer sur le terrain. Son coéquipier Jean Neves, figurez-vous, est harcelé sur les réseaux pour avoir simplement dissocié après la rencontre. Je vais le citer. On sait que Cristiano fait tout pour la sélection et pour le football, mais en ce moment, je sens que de son côté, et celui de nous tous, qu'il est l'un des nôtres, qu'il est juste un joueur de plus pour aider l'équipe. Il n'est pas différent des autres. Il est là pour apporter sa contribution comme tout le monde. Alors, entendre que Ronaldo sera un joueur au même niveau que les autres a fait perdre la tête à certains fanatiques de CR7 qui s'en prennent à João Neves et également à Bruno Fernandes. Donc, ça vous montre la difficulté pour toucher à une légende. Les GG, je vous pose la question. Est-ce qu'on doit traiter une légende comme un joueur ordinaire? C'est un sujet que je pense sont posés beaucoup d'entraîneurs.
C'est un sujet de philo, ça.
Ah oui, bien sûr.
C'est un sujet de philo.
Sarah.
Alors, je vais dire non.
Tu vas dire non. Bennett.
Je vais dire on devrait.
Il faudrait.
Oui, voilà.
Il faudrait.
Il faudrait, mais.
Mais c'est Jérôme.
Moi, j'ai dit oui, mais c'est très difficile.
Et Christophe?
Et moi, je dis non.
Toi, tu dis non. On ne peut pas traiter une légende comme un joueur ordinaire. Bah, tiens, pourquoi non, Christophe? On attend de ça.
Non, parce que si tu la traites comme une personne ordinaire, bah, tu vas te mettre à dos une grande partie des supporters. C'est ce qui s'est passé avec Jonas.
Est-ce qu'il faut en tenir compte?
Quelque part, si tu te mets à dos toute ta communauté, la pression va être encore plus terrible. Et si tu mets, par exemple, Ronaldo sur le banc pour le match face à l'Ouzbékistan et que tu t'en sors toujours pas, on va dire, mais voilà, c'est du sabotage, tu n'as pas osé mettre Ronaldo alors qu'il nous aurait marqué 10 buts. Ce mec-là, tu ne peux pas le traiter comme un autre. Et d'ailleurs, le sélectionneur ne le traite pas comme un autre parce qu'en plus d'être un joueur, il est un peu l'homme qui décide de tout dans cette équipe du Portugal et qui décide notamment de l'avenir de son sélectionneur qui rêve d'aller lui aussi se balader dans les pays du Golfe. Donc comment tu veux qu'il le traite?
Bon, le nom de Roberto Martinez est cité pour aller à Al Nassr, le club où joue Cristiano Ronaldo et où il est actionnaire.
Ça dépend de qui on parle et ça dépend du contexte.
Ça dépend du contexte. Est-ce que tu te mets à la place du sélectionneur? Est-ce que tu te mets à la place de ses coéquipiers? Donc est-ce que tu peux
supporter pour l'équipe
ou la pression nationale? La pression nationale.
Et après Ronaldo, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire?
Est-ce qu'une légende peut accepter d'être un joueur ordinaire?
Accepter d'être un joueur ordinaire et d'avoir un statut d'or.
Regardez ce qui s'était passé avec Thierry Henry il y a quelques années. Thierry Henry voulait faire la Coupe du Monde. Domenech voulait pas qu'il fasse la Coupe du Monde. Il est allé voir le sélectionneur. Il lui a dit, mais je suis prêt à jouer même sur le banc. Mais je vais sur le banc. Mais est-ce que tu crois que Ronaldo serait capable de dire ça? J'en suis pas sûr.
Ça dépend donc du caractère. C'est pour ça que quand on parle de Ronaldo, en fait, ce qui peut fausser un peu, c'est qu'à 42 ans, Ronaldo, quand tu le suis un peu, c'est un joueur qui joue encore tous les matchs, certes en Arabie Saoudite, qui se prépare comme jamais avec une vie d'asset. C'est-à-dire que tu compares pas la vie de Ronaldo et celle de Neymar, par exemple. Donc en fait, tu penses que Ronaldo est encore compétitif parce que il a une vie de sportif de haut niveau. Et forcément, quand tu le vois, tu te dis oui, il est peut-être encore performant. En revanche, la difficulté, c'est de faire un choix sportif ou un choix diplomatique. C'est-à-dire que pour par exemple pour le Brésil, moi je trouve que Carlo Ancelotti, il a fait un choix diplomatique pour se mettre tout le monde je vais vous le prendre Neymar, pas de problème. Il sait très bien qu'il va pas jouer, qu'il va cirer le banc parce que de manière il est tout le temps blessé. Donc il a fait un choix diplomatique.
Mais là c'est un risque aussi. C'est-à-dire que là
dans les deux cas tu prends un risque.
C'est-à-dire que tu prends un joueur qui est considéré, je sais pas si on peut dire Neymar est une légende, en tout cas pour les jeunes joueurs brésiliens, il l'est. Tu le prends dans l'équipe et tu vas le traiter comme un joueur ordinaire. Est-ce que tu crées un problème?
Mais t'es tranquille. En l'occurrence, Ancelotti, il est tranquille. Il est blessé. Il peut pas le faire jouer.
Enfin, il va jouer le prochain match, a priori.
Face à l'Écosse. Mais pour Ronaldo, je trouve qu'il y a une difficulté parce que quand tu suis Ronaldo, tu penses qu'il est encore performant.
En fait, ce n'est.
Mais il n'a pas marqué. Ça fait quoi? J'ai été voir. Ça fait 10 matchs.
Il n'a pas marqué au dernier euro. Il a marqué au premier but. Au premier match,
c'est pour ça que. Un penalty.
Ouais,
donc, tu vois, même ses performances, tu peux les remettre en considération, en fait. C'est-à-dire qu'il a plus un poids dans l'équipe sur le plan de la performance.
En fait, le truc, c'est que c'est forcément une question que se pose tout entraîneur quand il est dans cette situation. Scaloni avec l'Argentine se la pose. D'ailleurs, Scaloni avec l'Argentine a dit, tant que Messi voudra continuer, je le prendrai. C'est pas moi qui prendrai cette décision. Donc, ça te dit aussi l'équilibre qu'il y a ou le déséquilibre entre quand une légende est dans une équipe pour l'entraîneur. Toi, je sais pas, Jérôme,
il y a une grande différence entre Messi et Ronaldo.
Grande différence.
Parce que Messi, il y a tous les Argentins. Qui sont derrière lui.
Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas.
Oui, mais
ils sont champions du monde en titre. Ils sont champions du monde en titre.
Et là, tu vois les images,
sportivement, il est là. C'est la grande différence.
Comme ils savent sportivement qu'il est plus tant là que ça. Il y a certains coéquipiers qui disent c'est un caillou dans la chaussure.
Jérôme, t'en penses quoi? Toi qui as été manager d'équipe, t'as dû gérer des égos aussi. Mais si t'avais par exemple un Mark Cavendish dans une équipe vieillissant ou comme Chris Froome aujourd'hui dans une équipe, est-ce que c'est un mec qu'on oublie qu'il a gagné de tant d'étapes du Tour de France, tant d'étapes du Tour s'il n'est pas performant?
On n'oublie pas.
C'est pas neutre parce que manager.
Si on fait la comparaison, Mark Cavendish était un coureur qui, quand il venait sur les courses, n'était pas toujours prêt pour y venir, mais il avait une telle aura qu'il fallait mettre un dispositif autour de lui. Par contre, il était aussi capable, et c'est là où le mot légende avec tout l'ego qui va avec me gêne beaucoup.
Ouais.
Il avait l'intelligence de dire non, mais les gars, je suis pas prêt. Donc on n'attend pas, on fait pas le sprint. Par contre, quand il était prêt, là, c'était tout pour lui. Là, on assumait parce qu'on savait qu'il était. Mais c'est très gênant pour les coéquipiers. Moi, j'ai connu Christophe. Je sais pas si tu te rappelles la fin de Marco Pantani. Oui, j'ai couru avec Marco Pantani. J'ai fait une flèche wallonne avec lui, largué au bout de 20 bornes. Tous les équipiers autour de lui, parce que Marco Pantani est une légende. Parce que quand Marco Pantani est lâché, on l'attend. Mais moi, je me mets à la place de João Neves. C'est un peu les équipiers de Pantani. Mais tu t'entraînes, tu prépares toute la Coupe du Monde, et tu joues avec un mec
qui
non seulement est un plot, et en plus critique quand il n'a pas la balle. Neves, il a juste voulu dire, il est parmi nous, avec tout le statut de légende qu'il a, il faut qu'il soit dans le collectif.
Ouais, c'est la
grosse différence entre Messi et Ronaldo. Mmh. Messi est porté par le collectif et contribue à l'effort collectif parce que l'équipe joue aussi pour lui, mais Ronaldo n'est plus capable de faire des différences en solo. Et il est un poids pour moi.
Il n'arrive plus à jouer pour lui.
Je ne sais pas si j'arrive.
Le problème, c'est qu'il veut jouer que pour lui. Mais si, il l'a fait. Il a voulu faire gagner son pays, faire gagner ses coéquipiers et se faire gagner lui-même, évidemment. Mais tu sens qu'il y a Ronaldo, tu sens qu'il veut se faire gagner lui-même.
Ah ben, je peux te dire qu'en Argentine, le genre de déclaration comme a eu João Neves, on les entend pratiquement à toutes les conférences de presse, que ce soit le sélectionneur ou les coéquipiers de Messi, dire c'est un joueur comme un autre dans l'équipe.
Voilà.
C'est un joueur comme un autre dans l'équipe.
Mais c'est pas le même ego.
C'est là où il peut pas être traité comme les autres. Ronaldo au Portugal, à la place du manager, c'est ok, t'es dans l'équipe, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, t'es dans le groupe, il n'y a pas de débat. Maintenant, peut-être que ta contribution,
elle est différente.
Elle va être différente.
Ouais, tu rentres 10 dernières minutes, mais
il y a 6 ou 8 ans. Et c'est en ça que tu le traites différemment. Parce que un autre joueur lambda.
Est-ce que son égo va lui permettre d'accepter ça?
C'est obligatoire.
Les justifications, elles sont différentes. Avec une légende, tu dois prendre le temps d'expliquer.
C'est ça. Oui, c'est pas neutre. Ça implique tellement de choses.
Je te prends pas.
J'ai regardé le match du Portugal sur la première partie du match. Dans les 45-50 minutes, première minute de jeu, et notamment le Portugal mène 1-0, je regardais principalement Cristiano Ronaldo, je trouvais qu'il avait un comportement un peu différent. Il allait vers les autres. Il était plutôt dans la bienveillance, dans le collectif.
Dans le partage.
À partir du moment où ça s'est un peu tendu, l'ego surdimensionné qu'il a et qui a fait le champion qu'il est, parce qu'il avait quand même mis le Portugal sur la carte du monde du football, il a gagné des titres, etc. Mais avec tout le respect que j'ai pour lui, ces gens-là, quand ils ont cet ego-là et là,
c'est un problème.
L'inintelligence de bien le gérer, ils ressentent trop sur eux et ça devient un vrai problème.
C'est lui le sauveur. Envoyez-moi les ballons,
exactement.
Je dois être le sauveur.
Et là, ça pose un problème. Et moi, j'irais même que je trouve qu'une légende devient finalement et définitivement une légende dans le sport.
Quand elle a l'intelligence de savoir où elle se situe.
Quand il faut s'arrêter.
Oui, exactement.
Non, mais c'est important d'avoir ce débat parce que typiquement, c'est vrai qu'on entend beaucoup depuis plusieurs jours. Non, mais il faut qu'il le mette sur le banc.
Il faut pas qu'il l'emmène.
Fait, c'est tellement compliqué de mettre un joueur comme ça sur le banc avec tout ce que ça implique derrière, que ce soit pour un pays, les supporters. Christophe le disait, et même l'impact que ça peut avoir sur un groupe. Hein. Cristiano Ronaldo sur le banc, est-ce qu'il va pas faire la gueule? Souvenez-vous d'Didier Deschamps qui voulait pas prendre Olivier Giroud à une époque parce qu'il disait un joueur comme ça, ça se met pas sur le banc, conscient de l'impact que ça peut avoir sur
Olivier Giroud
groupe.
Aussi qui a dit mais prends-moi et peu importe et tu m'utiliseras si t'as besoin.
Parce qu'ils ont eu une discussion intelligente.
Giroud s'est mis dans cette position-là et que Deschamps est vachement.
Mais aujourd'hui il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo dans son pays est plus important que le président de la République. Ouais. C'est le personnage central du pays.
Et puis
Portugal, Cristiano Ronaldo et ça.
Et un dernier truc, c'est ça.
Ingérable.
Dernière Coupe du Monde. C'est-à-dire que
ça devait être la dernière déjà.
Est-ce qu'un entraîneur a envie d'avoir la responsabilité pour la dernière Coupe du Monde de Ronaldo de le mettre sur le banc?
Vous savez quoi, les légendes, elles ont toujours su partir au sommet. Pelé, il est parti au sommet de sa gloire. Johan Cruyff au sommet de sa gloire.
Ouais, et là, je trouve que les mecs. Là, au non,
moi, je suis un peu comme Ronaldo, je m'accroche, mais je pense que je vais me faire dégager sur le banc bientôt.
Ah bah tiens.
Il y a des infos?
Bah je sais pas, on va voir s'il va rester. En tout cas, il va réussir à rester à sa place pendant les Jeux du Sport. Dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, dernière ligne droite, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, 2 contre 2. Oui, parce que Bennett était tout seul contre tout le monde la semaine dernière. Il a quand même gagné. Vous allez défendre un auditeur. Christophe Cessieux, regarde si Sarah Pitkowski triche. Ne t'inquiète pas, elle est dans ton équipe.
Donc elle peut tricher. Pinetto.
Ah, la Pinetto.
Le duo Pinetto.
C'est vrai, c'est le Pinetto.
Le Pinetto.
Je crois que la seule fois où il a perdu, c'est avec moi.
D'accord.
Je sais pas, Pinetto ou Benino, je sais pas.
Enfin, ouais, mais ça, fait clown, ça fait clown les deux de toute façon.
Benino, c'est pas
donc, il est Pino Benetto ensemble. La question impossible, je vous rappelle, activable par un seul joueur par émission. Bonne réponse, 3 points, mauvaise réponse, moins 1 point. J'accueille les auditeurs. Sébastien, qui nous appelle de Gaillac, et Christophe de Toulouse. Salut messieurs.
Bonjour.
Sébastien, je te laisse choisir ton équipe. Pino Benetto ou Cessieux Pitkowski?
Oh, la Pinetto.
Oh, la Pinetto.
On va lancer un hashtag.
Ouais, des t-shirts et tout ça. Je pense que ça va être un four, ça va pas du tout marcher.
Christophe.
Super, merci.
C'est génial de la part de Georges.
Non, mais j'ai décidé de mettre Christophe en confiance aujourd'hui. Et d'arrêter cette
Ronaldo, il y a un égo surdimensionné.
Je vous rappelle que vous pouvez gagner, pour les auditeurs, donc une enceinte portable Mino X de Lexon. Allez, c'est parti. Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Contre qui joue le Curaçao la nuit prochaine?
L'Équateur.
Ça, c'est
bien
sûr.
Bien joué.
Voilà.
Trop tard. Je suis pas sûr.
T'es pas sûr? Non,
là, si,
pas
je crois que si, c'est
je suis parti derrière.
Ah non, moi je suis sûr à 100%.
Ouais.
Quoi donc? 100%.
Ah, t'étais pas loin.
Ah non, mais là, comme t'es dans la Pinette, maintenant t'as une caravane derrière toi. Ça se perd un peu de temps au démarrage.
Jérôme, tu te laisses pas faire.
Ça va, Jérôme?
Non, la caravane.
Question à une seule réponse, les GG. Une seule réponse. Quel coureur français a gagné une étape du Tour de Suisse cette semaine?
Grégoire.
Je l'ai dit, ouais. J'ai même dit Grégoire avant toi.
After review. Jérôme Pino prend le point. Un partout. Jérôme Pino prend le point. Question auditeur, c'est pour vous, Sébastien et Christophe.
Allez,
vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, s'il vous plaît. Comme ça, je peux déterminer qui donne la bonne réponse. Les gars, très simple. Quelle équipe s'est qualifiée en finale du top 14 hier?
Toulouse. Christophe
a donné la réponse en entier. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe.
Il a donné son prénom.
Cessieux Pitkowski, l'équipe Cessiowski. On continue. Question à une seule réponse. Nous sommes en 2026. Mm-hmm. On est d'accord?
Mm-hmm.
Il y a 40 ans, quel joueur français marquait le tir au but de la victoire? Julien Benetto et Jean Bino. La Pinetto a répondu en même temps. 2-2. Question à une seule réponse. Il y a 30 ans, c'était la première finale du championnat de France professionnel de rugby. Toulouse s'est imposé contre qui?
C'est une seule réponse.
Brive. Christophe, c'est sûr. Je n'ai pas révisé pendant les vacances.
Toulouse-Brive en 96.
Mais non, mais sur les.
Ça, c'est ton sport.
Les vieux.
C'est toi qui l'as dit.
Les vieux résultats.
C'est toi qui.
Je suis pas mal.
Ça fait 3-2 pour qui?
Pour
les Brive. Les Brive a succédé à Toulouse au palmarès de la Coupe d'Europe.
Il gagne du temps, c'est très bien joué. On est sur un Christophe
Allez.
Question auditeur, Sébastien et Christophe. Attention, donnez bien la réponse et ensuite votre prénom. Contre qui joue la France ce lundi en Coupe du Monde?
Irak, Christophe.
Oh là là, Christophe.
Bien joué, Christophe.
4-2. 4-2. Allez, question élimination. Pour 2 points, vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Donnez-moi, nous sommes encore en pleine Coupe du Monde, on est d'accord? Donnez-moi, s'il vous plaît, les 15 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Les 15 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. On commence par Jérôme Pino.
Klose.
Miroslav Klose.
C'est bon.
Christophe Cessieux.
Messi.
Lionel Messi. Ah, moi. Julien Benetto.
Ronaldo.
Ronaldo, lequel?
CR7. Non, le portugais, non?
Il y est pas, c'est le brésilien.
Ah non, c'est le brésilien.
Ouais. Sarah.
Il est éliminé.
Mbappé, bien sûr. Jérôme. 5, 4.
Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, il n'y est pas éliminé. Christophe.
C'est Gerd Müller.
Comment tu dis, Christophe?
Gerd Müller,
c'est bon. 14 buts.
Fontaine,
c'est bon, vous avez gagné les deux points, vous êtes
question
ensemble.
Impossible.
Voilà, ensemble. Allez,
question impossible.
Ah oui. Jérôme Pinot, pour la. Pinotta.
C'est Jérôme ou c'est Julien?
6-2. Vous pouvez revenir à 6-5 en cas de bonne réponse. Question impossible. Attendez, je les ai, les questions impossibles? Ah oui, je l'ai.
Il reste une minute.
Question impossible. Wimbledon commence dans une semaine.
Question
qui
tennis,
a gagné Wimbledon en 1987?
87.
Voilà.
Si tu as la bonne réponse, on va en donner un point. Il y aura une dernière question derrière. Si tu réponds rapidement.
Par contre, il faut qu'il réponde à un moment.
Mais tant pis pour lui, le temps passe. Hein.
Ouais, j'ai au pif.
Pas de cash.
Pas de cash. Pas de cash face à Ivan Lendl.
C'est ça,
non, c'est ça
bien sûr.
Magnifique.
Question à une seule réponse.
Pour la gagne.
Dans quelle ville se joue France-Irak?
À
Philadelphie, la victoire pour l'équipe, c'est sur Bikowski et pour toi, Christophe, félicitations.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Et la statistique se vérifie, Jérôme Pinot fait perdre un jeu. Bravo Sarah Pitkowski, bravo Christophe Cessieux, vous avez été en plus particulièrement performants tous les deux. Allez les amis, on se retrouve demain évidemment dans les grandes gueules du sport, mais restez avec nous tout de suite, les paris RMC arrivent.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.